J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui me tenait à cœur. Aujourd'hui, on va parler essais cliniques et débunker pas mal de mythes à son sujet, mais aussi parler de son accessibilité avec le site Clinéo, qui permet de trouver l'essai clinique pour votre type de cancer, le tout gratuitement. Bonne écoute! Bonjour Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter pour parler un peu de Clinéo, qu'est-ce que vous faites, etc.
Bonjour Émilie, donc je m'appelle Arnaud Bail, je suis oncologue médical à Gustave Roussy et un des trois cofondateurs de la plateforme Clinéo, qui est une plateforme digitale qui permet aux patients et aux médecins de trouver facilement un essai clinique en oncologie en France.
Alors quel est le constat de départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Clinéo?
Alors le constat de départ, c'est que moi en tant qu'oncologue, j'ai la chance de travailler dans un centre où il y a beaucoup d'essais cliniques, mais j'avais du mal à trouver des essais cliniques pour mes patients. À la fois connaître les essais cliniques ouverts en temps réel au sein de mon centre, c'était compliqué, et c'était encore plus compliqué de chercher des essais cliniques dans d'autres centres. Et donc c'est de cette problématique qu'est née l'idée de Clinéo, avec une approche pour les médecins, mais aussi une approche pour les patients, parce que j'étais convaincu depuis le départ que les patients ou les proches de patients peuvent être acteurs de la recherche d'un essai clinique. Et donc voilà, je voulais que la plateforme puisse être accessible à la fois aux médecins, mais aussi aux patients.
En fait, ça veut dire qu'avant, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment un lieu qui répertoriait tous les essais cliniques. Il fallait faire des recherches un peu partout ou...
Alors, il y avait des bases publiques, des registres, mais qui sont très difficilement accessibles, qui ne permettent pas de faire une recherche facile, rapide, et qui donc finalement sont très peu utilisées. Et donc c'est vrai que voilà, le constat, c'était de dire qu'il y avait un vrai besoin pour l'accès aux essais cliniques. En fait, qu'est-ce que c'est un essai clinique, hein? C'est l'accès à l'innovation thérapeutique pour les patients. Et donc on a voilà, actuellement plus de chances d'être inclus dans un essai clinique quand on est suivi dans un centre expert où il y a des essais cliniques que dans un autre centre, notamment dans des centres périphériques. Et donc le but, c'est vraiment avec Clinéo de changer le paradigme et de faire en sorte que demain, l'accès aux essais cliniques, c'est une réalité pour tous les patients, quel que soit leur lieu de prise en charge, donc avec une équité d'accès à ces essais cliniques et donc à ces innovations thérapeutiques qui peuvent être proposées aux patients plusieurs années avant qu'elles soient vraiment disponibles par la suite quand elles sont autorisées en France pour la commercialisation.
Du coup, c'est quoi en fait un essai clinique? Parce que moi, j'en ai un peu parlé dans mon livre, mais je pense que c'est important que les gens puissent connaître un peu ce que c'est.
Alors, un essai clinique, concrètement, c'est un protocole de recherche qui permet, notamment là dans le cadre des médicaments, de tester les nouveaux traitements. Et c'est grâce à ces protocoles que par la suite, on a des traitements qui sont, deviennent des traitements standards pour les patients. Donc tous les traitements qu'on a actuellement ont bénéficié d'essais cliniques par le passé. Et donc voilà, quand on a un nouveau traitement, une nouvelle molécule, en oncologie, il y a beaucoup de recherches actuellement pour des nouveaux traitements. Il faut passer par l'étape des essais cliniques. Et donc voilà, les patients qui participent à ces essais cliniques permettent d'une part d'avoir potentiellement un bénéfice pour eux-mêmes, mais permettre aussi, grâce aux résultats de l'essai clinique, d'informer la communauté et de permettre d'avoir des données scientifiques sur l'efficacité des nouveaux traitements.
De faire avancer la recherche, en fait.
Exactement. Donc, de faire avancer la recherche. Mais parce que, un point important, c'est de savoir qu'en oncologie, il n'y a pas de volontaire sain. C'est uniquement les patients atteints d'un cancer qui peuvent participer à un essai clinique. Et donc, concrètement, quand un patient rentre dans un essai clinique, il a aussi un bénéfice potentiel pour lui-même qui lui permet potentiellement de bénéficier d'un nouveau traitement grâce aux essais.
Est-ce qu'on peut parler du coup un peu des légendes urbaines qui entourent les essais cliniques? Parce que c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais regardé une série récemment, Fargo, et ils montraient, en fait, donc c'était dans les années 60, il me semble, et en fait, la maman, elle suit un essai clinique, mais en fait, elle avait le côté placebo. Et donc, je pense que c'est important d'en parler, parce que dans beaucoup, l'inconscient collectif, c'est aussi soit on a un placebo, soit on a le médicament.
Eh, tout à fait. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il y a des comités d'éthique, quand on met en place un essai clinique, qui vont regarder le protocole de l'essai clinique et qui vont voir si il respecte bien les standards de traitement. Et si un traitement est déjà recommandé, a déjà fait ses preuves, on ne peut pas ne pas le donner au patient. Donc dans un essai clinique où il y a par exemple deux bras de traitement, un pour le traitement nouveau et un pour le traitement standard, il ne peut pas y avoir de placebo. On est obligé de donner le traitement, et c'est ce qui est normal, qui est recommandé. Le cas où il peut y avoir un placebo, c'est quand il n'y a pas de traitement standard recommandé. Dans ce cas-là, c'est licite de donner un placebo. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on rentre dans un essai clinique, on n'a pas de perte de chance. Au contraire, on peut avoir une chance supplémentaire, mais il n'y a pas de protocole qui peut être approuvé s'il y a une perte de chance pour les patients qui rentrent dans cet essai clinique.
Donc c'est hyper important de le préciser parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'inconscient.
Ouais, non mais tout à fait. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des essais cliniques où il n'y a pas forcément de bras comparateur, où tous les patients qui rentrent dans l'essai clinique bénéficient du traitement. C'est notamment les essais précoces, les essais de phase 1, phase 2. Donc ça, c'est voilà, il y a différents types d'essais cliniques, des essais au tout début, puis ensuite des essais de confirmation. Et donc voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des essais qui ne sont pas forcément avec des bras contrôle comparateurs. Et en tout cas, bien retenir que le placebo n'est que possible dans le cas où il n'y a pas de traitement standard. S'il y a un traitement standard, on pourra donner, bien sûr, aux patients le traitement standard en plus du traitement nouveau qui est testé dans l'essai clinique.
Et est-ce que vous, du coup, en tant qu'oncologue, vous avez déjà mené un essai clinique ou alors vous avez... quelle est votre expérience avec sur ce sujet-là, du coup ?
Oui, du coup, à Gustave Roussy, où je travaille, on a énormément d'essais cliniques qui sont ouverts. Hein. Dans le service dans lequel je travaillais, on a à peu près une centaine d'essais ouverts en permanence. Et en fait, voilà, grâce à ces essais cliniques, hein, c'est... toutes les révolutions dont on parle actuellement en cancérologie, les traitements par immunothérapie, les traitements par thérapie ciblée, c'est vraiment dans ce cadre d'essais cliniques qu'on a pu les tester en premier d'abord dans ces essais, puis ensuite, maintenant ces médicaments sont accessibles pour la plupart pour les patients. Donc c'est vraiment, l'expérience, elle est vraiment de... Et on a vu des bénéfices assez formidables. Hein. Il y a des exemples notamment dans le cancer de la peau, le mélanome, où on a des très très belles histoires de patients qui en ont bénéficié et qui maintenant sont en rémission de leur cancer grâce à ces essais cliniques. Donc bien sûr, il faut bien retenir que ce n'est pas le cas de tous les essais cliniques. Tous ne vont pas fonctionner. Hein. C'est aussi important de le préciser pour que ce soit clair. Mais en tout cas, on donne une chance supplémentaire et potentiellement, certains essais vont permettre d'avoir vraiment des médicaments assez révolutionnaires pour les cancers et pour les patients.
Du coup, l'historique en fait un peu de Clinéo, c'est avec les triplettes roses, qui est devenu le collectif triplettes roses en fait.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez un peu raconter l'historique ?
Oui, tout à fait. Du coup, comme je le disais, la plateforme est accessible pour les médecins et les patients. Pour les médecins, moi, j'avais donc l'expérience personnelle qui m'a permis de faire une première version de la plateforme et de développer cette interface médecin. Mais pour les patients, on était convaincus depuis le début que pour avoir une interface et une plateforme qui fonctionne, qui est utilisée, il fallait vraiment le co-construire avec les patients. Et en fait, à ce moment-là, on a entendu parler du combat que les triplettes roses menaient, notamment pour l'accès à certains traitements. Et en discutant avec elles, en fait, ça a été tout de suite une évidence qu'il fallait collaborer ensemble pour l'accès aux essais cliniques, qui était un nouveau combat pour le collectif. Et en fait, on a été notamment avec Claude Coutier en contact très rapproché dès le début pour co-construire cette interface. Moi, je voulais vraiment que l'interface patient ne soit pas pensée par un médecin pour les patients, mais que ça soit vraiment co-construite. Et donc ça passe par le fait d'avoir des termes adaptés, voir aussi qu'il y a des forums dans lesquels certains thèmes sont utilisés et pas d'autres. En fait, il fallait vraiment utiliser ce langage-là. Et donc, on a commencé ce travail-là qui a été très, très dense, mais passionnant, de créer une interface patient qu'on continue à améliorer grâce au retour des patients. Et vraiment, grâce au triplet rose, on a pu vraiment faire une première plateforme sur le cancer du sein triple négatif, qu'on a ensuite étendu à tous les types de cancers du sein, avec notamment d'autres partenariats avec d'autres associations comme Patients en Réseau, par exemple, Mon Réseau Cancer du Sein. Et puis là, après, pour les différents types de cancers qu'on a actuellement sur la plateforme, on a collaboré avec d'autres associations avec lesquelles on continue à améliorer l'interface. Et c'est vrai que je pense que le travail avec les associations est majeur pour avoir une interface qui vraiment correspond aux besoins des patients, donc avec des contenus beaucoup plus pédagogiques, avec des termes qui sont parfois complexes mais qu'on essaie d'expliquer. Et donc, on travaille en permanence pour améliorer ça. Et on est aussi très reconnaissant de tous les patients qui nous font des retours, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des différents types de patients, plus ou moins experts de leur maladie, plus ou moins sachants sur les termes techniques. Et donc, ça nous permet vraiment, grâce à ces retours, ces feedbacks, d'améliorer la plateforme et de faire en sorte que c'est une vraie interface patient qui n'est pas la même que l'interface médecin, parce que encore une fois, on essaie de s'adapter à la connaissance et à la complexité qu'est quand même les essais cliniques.
Et du coup, maintenant, donc là, vous collaborez avec plusieurs hôpitaux, il n'y a que Gustave aussi, ou comment ça se passe ?
Alors, le point important, c'est que la plateforme, elle est vraiment accessible de partout en France, donc quel que soit son hôpital, donc pour tous les patients, bien sûr, mais aussi pour tous les médecins, quel que soit son hôpital, on peut se créer un compte. Après, bien sûr, on a fait des projets pilotes comme à Gustave aussi, on en fait d'autres avec d'autres centres pour justement améliorer la plateforme, on a toute une partie de recherche et développement pour améliorer la plateforme, mais vraiment, le point majeur, c'est de dire que cette plateforme, elle est vraiment universelle en France, et on a au moins un médecin dans plus de 200 centres actuellement, donc sur tout le territoire, qui utilise la plateforme. Et donc ça, c'est vraiment le but, c'est de démocratiser l'accès aux essais cliniques. Et donc un point aussi important, c'est que c'est gratuit pour les patients et gratuit pour les médecins.
Important de le préciser, parce que beaucoup pensent que c'est, que c'est payant ou que c'est trop compliqué, etc. Moi, j'avais envie de parler du côté si, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de très bon rapport avec leur oncologue ou ça passe mal, le dialogue passe mal. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'elles peuvent, en bénéficier de l'inscription ? Comment ça se passe ? En fait, elles peuvent s'inscrire sur la plateforme, elles peuvent aller dans les essais cliniques sans l'aval de l'oncologue ?
Alors, Nous, la plateforme est vraiment déjà, on peut se créer un compte en tant que patient sans avoir besoin d'être forcément relié à un oncologue, etc. On peut se créer un compte de façon très, très facile. Après, effectivement, on favorise le lien entre l'oncologue référent et son patient pour garder cette alliance thérapeutique entre le patient et son oncologue. Et on pense que ça permet aussi de fiabiliser les données que le patient a pu rentrer, que ça permet aussi de savoir si c'est pertinent à ce moment-là de rentrer dans un essai clinique pour le patient. Donc voilà, dans la majorité des cas, en fait, ça se passe quand même très bien avec les oncologues et c'est vraiment le but, c'est de garder ce lien-là. Si jamais c'est pas possible, on est bien sûr nous aussi joignables. On a un petit bouton sur la plateforme qui permet d'être recontacté par l'équipe de Clinéo et donc on peut aider les patients dans leur recherche. Et ça, c'est un peu comme quand les patients vont faire des demandes de deuxième avis. Ben voilà, un patient, il est libre de son choix. Si avec son oncologue, il n'a pas forcément une bonne relation ou qu'il veut aller voir, au moins pour se rassurer, avoir un deuxième avis, ben, c'est un peu le même principe pour les essais cliniques. Hein. Il peut potentiellement contacter un autre centre. Mais grâce à la plateforme, au moins, il a l'information qu'il y a un essai clinique potentiel pour lui. Et ça, je pense que voilà, c'est un message aussi important, c'est de dire que les essais cliniques peuvent être à n'importe quel moment du parcours une option thérapeutique. Parfois, on pense aux essais cliniques un peu en dernier recours, en dernière chance. Voilà, je crois que vous avez aussi participé à un essai clinique voilà, dans votre parcours. Et en fait, c'est ça qui permet de dire que demain, il y aura encore plus de participation à la recherche. C'est aussi de se dire que voilà, dès le diagnostic, il y a des types d'essais cliniques qui peuvent correspondre. Et en fait, on peut toujours faire mieux par rapport à l'existant. Donc, en fait, les nouveaux essais cliniques permettent de se dire, voilà, aujourd'hui, on est peut-être à 85% de guérison, bah pourquoi on passe pas à 90%, pourquoi on passe pas à 95%, et c'est grâce à des essais cliniques qu'on va réussir à avoir des nouvelles thérapeutiques qui peuvent améliorer le pronostic des patients.
En fait, moi j'ai bien précisé parce qu'en fait, quand j'ai eu la proposition d'essais cliniques, moi j'étais opérée du coup à la Petite Salpêtrière à Paris, mais je suis suivie à Becquerel à Rouen, et j'avais l'impression de trahir mon oncologue avec qui j'ai un très bon lien, et je me souviens que quand on m'a proposé de participer à cet essai clinique parce qu'il me restait des résidus tumoraux dans mon sein, en fait. Cet essai clinique qui était uniquement à Paris, mais qui n'était pas à Rouen. Et du coup, j'en ai demandé à mon oncologue, il m'a dit bien sûr d'y aller. Et quand je lui ai dit, bah, en fait, j'ai la possibilité soit d'avoir la chimiothérapie, soit du Xeloda, qui était la chimiothérapie orale qu'on donnait quoi qu'il arrive, donc je n'étais pas en perte de chance. Et j'ai eu du Xeloda, mais c'était en même temps que la radiothérapie, quelque chose qu'il ne faisait pas à Becquerel. Et je lui posais la question, je lui dis, qu'est-ce que vous ferez? Et il me dit, bah, moi j'irai. Et c'est vrai que du coup, mais j'avais l'impression, ce que je lui dis, mais je vais plus vous voir. En fait, j'avais cette peur de manque de lien. Et en fait, j'ai un deuxième oncologue du coup qui est super, avec qui je m'entends très bien. Et moi, je conseille aux gens de pouvoir le faire parce qu'en plus, je trouve qu'on est mieux suivi. Parce que dans le cas du triple négatif, je n'avais rien à part une mammographie une fois par an. Je n'avais rien d'autre en suivi. Je n'avais pas de scanner. Je n'avais pas tous ces examens que j'ai complémentaires. Je les ai du coup grâce à l'essai clinique, et ce qui me permet de savoir tous les 6 mois si tout va bien, si le scanner revient bien, les prises de sang, d'IRM selon le protocole. Mais en fait, c'est hyper bien en fait d'être un suivi en essai clinique.
Ouais, c'est très protocolisé, effectivement, donc c'est très, très précis comme suivi. Et en tout cas, voilà, l'expérience dont vous parlez montre que voilà, on peut très bien dialoguer sur ce genre de sujet avec les oncologues. Encore une fois, en tant qu'oncologue, l'important, c'est quand même le patient. Et donc, si on a l'impression que le patient a plus de chances grâce à un essai clinique que par rapport au traitement standard accessible, je pense que voilà, la mentalité des oncologues est vraiment de favoriser cet accès à l'innovation. Et après, il y a aussi le fait qu'on n'est pas obligé forcément de changer de centre pour participer à un essai clinique. Là, on a plusieurs témoignages sur la plateforme de patientes qui ont trouvé un essai clinique. Il y a un témoignage qui est notamment dans un centre à Rennes. La patiente a trouvé sur Clinéo un essai clinique et on a parlé avec son oncologue, et finalement l'oncologue partait plutôt sur un traitement standard et a préféré du coup en discutant dire ok, bah on fait un essai clinique. Et donc on voit bien que voilà, il y a cet enjeu de décision partagée. Et je pense que les oncologues sont ouverts sur le fait d'avoir un suivi potentiellement dans deux endroits s'il y a un essai clinique qui est actuellement ouvert dans un autre centre. Et je pense qu'il faut, voilà, faut avoir ça en tête. Et par rapport aussi à l'aspect transport, l'aspect logistique, il faut savoir que dans un essai clinique, les transports sont remboursés. Et je pense que c'est aussi un point important pour faciliter. Nous, à Gustave Roussy, il y a des patients qui viennent de la France entière. Et moi, je suis assez convaincu du fait que voilà, quand on peut avoir un traitement standard et qu'il est faisable à côté de chez soi, ben, tant mieux. Mais si il y a à un moment donné une pertinence à avoir un autre traitement ou un traitement plus expérimental, ben voilà, on peut faire ces déplacements pour une pathologie malheureusement grave comme le cancer, ça a beaucoup de sens. Et de plus en plus, on essaye aussi d'ouvrir des essais cliniques dans différents centres pour avoir le moins de transport aussi pour les patients. Donc je pense que la plateforme permet aussi de voir dans quel centre un essai clinique est ouvert, et on propose nous sur la plateforme toujours l'essai le plus pertinent mais aussi le plus proche pour avoir cette logique aussi de proximité pour les patients.
J'ai une petite question du coup, parce que quand on est malade et qu'on a ce protocole, en fait le protocole il est établi par un RCP, il me semble.
Ouais.
Du coup, est-ce que dans le RCP, ils peuvent proposer, se dire, en fait, on a cet essai clinique
Oui.
qui arrive, est-ce qu'ils le proposent ou alors c'est pas quelque chose qui est automatique?
Si, ben alors, le principe de la RCP, ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire, hein, c'est vraiment de discuter des options thérapeutiques. Et parmi les options, il y a les essais cliniques. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, ben voilà, il y a tellement d'essais cliniques qui ouvrent en permanence, qui peuvent être dans différents centres, que ben, ça repose aussi un peu sur la connaissance des gens, la mémoire des gens. Et donc, à la base, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de... Voilà, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la différence entre certains centres experts et d'autres centres, parce que malheureusement, voilà, tout le monde n'a pas l'information en temps réel des essais cliniques, et on n'est pas tous oncologues experts d'un type de cancer. Et donc, c'est vrai que l'intérêt qu'on voit de Clinéo pour les médecins, c'est aussi pouvoir, dans ces réunions-là, pouvoir consulter en moins d'une minute l'application pour trouver un essai clinique et que finalement ça devienne quelque chose d'un peu systématique pour tous les patients, alors que malheureusement c'est tellement chronophage actuellement et tellement fastidieux de faire une recherche, bah malheureusement tous les patients, on ne fait pas de recherche d'essai clinique pour tous les patients et ça peut expliquer aussi pourquoi le nombre actuel de patients inclus dans un essai clinique est encore trop faible, moins de 5% des patients sont inclus dans un essai clinique, alors que 70% seraient prêts à participer si on leur proposait, donc je pense que c'est quand même un chiffre qui montre que le constat de façon assez, assez claire.
Concernant du coup les moins de 5%, est-ce que c'est parce que, donc c'est cette méconnaissance, mais du coup est-ce que ça joue sur l'essai clinique? Est-ce que par exemple les résultats, en fait, est-ce que l'inclusion va durer X temps, beaucoup plus longtemps, pour attendre, comment ça se passe?
C'est tout à fait ça en fait. Hein. Il y a deux grosses conséquences hein, à ce manque d'inclusion dans les essais cliniques. Le premier, ben, c'est le fait d'avoir des retards dans les essais cliniques. Hein. Jusqu'à 85% des essais ont des retards, donc qui dit retard dit forcément des résultats qui sont publiés plus tardivement et donc potentiellement un retard d'accès à l'innovation pour les molécules. Et l'autre aspect, c'est aussi les échecs d'essais cliniques hein, qui n'arrivent pas suffisamment à recruter de patients. Et donc là, on a jusqu'à 20% des essais qui échouent faute de recrutement. Donc c'est vrai que voilà, y a un vrai paradoxe avec d'un côté des essais cliniques qui ont du mal à inclure des patients et de l'autre côté des patients qui souhaiteraient y participer. Et donc nous, vraiment, le but de la plateforme, c'est vraiment d'être au milieu entre les patients et les essais cliniques pour permettre d'améliorer le matching essais cliniques patients.
Je suis assez choquée en fait de savoir que ça se passe comme ça. Ok. Est-ce que du coup, depuis que vous avez lancé la plateforme, vous faites de la communication auprès des oncologues, mais aussi auprès des patients en fait via, bah, par exemple, ce podcast pour faire connaître votre plateforme. Est-ce que vous avez senti un boom d'inscription?
Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'on a des très bons retours et on a beaucoup de médecins, mais aussi de patients qui créent des comptes. On a la chance de faire des partenariats avec des associations de patients pour faire connaître la plateforme. Mais c'est vrai que, voilà, il faut encore accentuer la connaissance à la fois des essais cliniques et aussi de la plateforme pour que ça devienne vraiment un réflexe pour tous les patients, mais aussi les proches. Et je pense que c'est aussi un message important, c'est de se dire qu'on est tous malheureusement touchés autour de nous par le cancer. Et on peut en fait être acteur pour son proche, pour sa famille, dans cette recherche pour essayer de trouver des options thérapeutiques. Et donc moi, voilà, notre plus grande mission chez Clinéo, c'est vraiment de se dire que demain, on aura des témoignages de patients qui, grâce à Clinéo, ont trouvé un essai clinique et sont en rémission d'un cancer grâce à cet essai clinique. Et ça, je pense que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. C'est, voilà, c'est notre mission, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'apporter l'innovation, quel que soit le lieu de prise en charge. Et on a plusieurs témoignages qui sont très encourageants et il faut encore qu'on continue à faire connaître la plateforme et que demain, voilà, on ait vraiment toute personne soit au courant qu'il y a potentiellement un essai clinique pour lui ou elle pour sa pathologie.
Et comment ça se passe une fois qu'on s'inscrit? Donc comment se passe la démarche? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations? Enfin, j'aimerais bien que vous puissiez un peu expliquer pourquoi.
Oui, ben concrètement, donc on se crée un compte hein, sur la plateforme et après avoir créé un compte en tant que patient, on va avoir des questions pour remplir un petit peu sa fiche patient pour préciser quel type de cancer, quels sont les traitements déjà reçus, etc. Et donc en fait, on a vraiment tout un accompagnement pour que ce soit simple de remplir et aussi se savoir où est-ce qu'on peut trouver dans ces documents parce que les patients ont leurs documents souvent avec eux, des comptes rendus, de consultations, de biopsies. Et donc nous, notre travail, c'est vraiment de simplifier cette recherche d'informations, d'indiquer aux patients où est-ce qu'elle est, de bien expliquer les termes. On peut bien sûr répondre je ne sais pas, hein, on n'est jamais bloqué dans la création. Et après, une fois qu'on a rempli ces quelques éléments, on peut faire une recherche et là, on peut du coup partager les essais cliniques avec son oncologue. Et donc, on peut associer son compte à celui de son oncologue. Et voilà, le but, c'est vraiment que ce soit utilisable et utilisé par tout le monde. Donc, on travaille, nous, de plus en plus sur la simplification des choses pour que vraiment ce soit facile de remplir ces quelques éléments qui permettent déjà d'identifier des potentiels essais cliniques. Et alors, peut-être un point supplémentaire, maintenant il y a aussi ce qu'on appelle les accès précoces sur la plateforme. Donc il y a des traitements qui, entre les essais cliniques et le moment où ils sont vraiment accessibles, remboursés par la Sécurité sociale, sont en accès dérogatoire, en accès temporaire. Et en fait, voilà, ça change tout le temps. Et donc nous, maintenant sur la plateforme, il y a aussi ces accès précoces. Et ça, c'est aussi un élément de se dire qu'il ne faut pas passer à côté d'un traitement innovant qui est actuellement en cours d'inscription pour le remboursement. Et donc toute innovation thérapeutique, grâce à la plateforme, notre challenge, c'est qu'elle soit accessible quand on fait une recherche et aussi d'avoir des notifications s'il y a un nouvel essai qui ouvre, s'il y a un nouvel accès précoce qui arrive, de pouvoir être informé. Donc ça, je pense aussi que c'est intéressant. C'est voilà, quand on a créé une fois son compte, on peut être informé de façon proactive par la plateforme. Et ça, c'est aussi quelque chose parce que actuellement, il faut faire une recherche à chaque fois, de relancer une recherche pour un essai clinique, relancer une recherche pour un accès précoce. Donc l'intérêt pour les patients, mais aussi pour les médecins, c'est d'inverser un petit peu les choses et d'avoir des notifications pertinentes dès qu'il y a un essai qui pourrait correspondre soit aux patients, soit pour les patients.
C'est assez incroyable parce qu'en fait, je me souviens, moi, il y a 3 ans, quand il y a eu, on était en accès par rapport au Trodelvy et le Keytruda aussi, ouais, qui était en accès précoce, en attendant que la HAS valide le remboursement. Donc en fait, si ça, on avait eu ça, enfin à l'époque, je sais que mes copines, parce qu'on parlait beaucoup, le triplette, on était une grosse communauté, on se disait, oh, regarde, il y a ça, il faut le demander. Donc par exemple, si demain, une patiente voit qu'il y a un traitement pour tel cancer dont elle souffre, elle peut du coup parler à son oncologue qui peut faire une demande du coup.
Exactement.
Précoce. Incroyable.
Pour un traitement en plus, là, il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est directement là où le patient est suivi. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut retenir, c'est que on a la chance d'avoir beaucoup d'innovation thérapeutique, mais qui dit beaucoup d'innovation thérapeutique dit aussi que c'est très dur de suivre et de connaître en temps réel toutes les innovations. Et tous les oncologues ne sont pas ultra spécialisés sur un type de cancer, ils doivent être au courant de beaucoup de choses en même temps. Et donc, grâce à cette plateforme, on peut réussir à simplifier un petit peu ce travail de recherche et de veille un petit peu, parce que ça change effectivement très fréquemment, très souvent. Donc c'est vraiment le but, c'est de ne pas avoir de perte de chance finalement pour un patient. Et si un traitement peut lui correspondre, qu'il soit au moins informé. Après, bien sûr, on peut aussi faire un traitement standard, mais au moins on a eu l'information et c'est vraiment ça, je pense, le message clé.
Ouais, le but, en fait, c'est de pouvoir faire son traitement standard en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'heure actuelle un traitement en essai clinique ou autre, mais du coup, on ne sait jamais, on peut ouvrir, parce que moi, je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement, mais quand j'ai fini mon traitement, mon parcours, il y avait ce fameux protocole d'essai clinique qui est arrivé. Donc, en fait, il faut toujours rester un peu en alerte.
Exactement.
Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas que dans quelques mois il n'y en aura pas. Enfin...
C'est exactement ça le message. Et je pense que c'est à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de se dire, soit pour vous, parce que vous êtes malheureusement atteint d'un cancer, soit pour vos proches, créer un compte, rester informé. Et c'est vraiment en étant informé qu'on donne le maximum de chances de ne pas passer à côté de cette option thérapeutique potentielle.
Donc à l'heure actuelle, vous suivez quel type de cancer sur Clinéo?
Alors, à l'heure actuelle, la plateforme, elle est ouverte pour tous les cancers du sein, les cancers de la peau, notamment les mélanomes, les lymphomes, donc ça c'est en hématologie, les cancers qui sont, qu'on appelle le lymphome, et on va ouvrir la plateforme là très prochainement au cancer du poumon, et d'ici la fin de l'année, ce sera ouvert à tous les types de cancers en France. Ça, je pense que c'est aussi important de le signaler. C'est-à-dire que même si vous avez un autre type de cancer, dans quelques semaines, quelques mois, la plateforme vous permettra de faire une recherche pour ce cancer-là. Et puis, on a d'autres projets, notamment, par exemple, pour les cancers de l'enfant. On travaille notamment avec la Société française de cancérologie pédiatrique. Donc, le but, vraiment, c'est de réussir à avoir une plateforme qui, pour les adultes, pour les enfants, permette de trouver les essais cliniques.
Et j'aimerais savoir, du coup, parce que c'est une question qu'on va poser, mais comment vous arrivez en vie? Parce que vu que c'est gratuit...
Donc, nous, la plateforme, elle est gratuite pour les utilisateurs, que ce soit médecins ou patients. Et nous, ce qu'on a comme façon de procéder, c'est de faire des partenariats, en fait, avec les promoteurs d'essais cliniques. Donc, ceux qui lancent ces essais cliniques, ça peut être soit des académiques, par exemple des hôpitaux, des groupes coopérateurs, soit des industriels, des big pharma ou des biotech. Et en fait, on fait des partenariats pour mettre à jour en temps réel leurs essais cliniques, parce que on sait que c'est extrêmement complexe de mettre à jour manuellement ces essais cliniques. Et c'est aussi pour ça qu'actuellement, sur les bases publiques, il y a jusqu'à 6 mois de retard. Et donc nous, en fait, pour automatiser cette mise à jour, on fait ces partenariats. Et donc c'est vrai que c'est un système qui permet d'offrir une plateforme gratuite aussi aux patients et aux médecins.
C'est donnant, en fait. Enfin, je trouve que c'est hyper pratique, parce que c'est vrai que c'est pas pratique. J'en ai rempli pour des papiers quand j'ai fait mon essai clinique. Mais je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, ça paraît tellement, pour beaucoup, insurmontable ou trop compliqué dans un essai clinique, alors que s'il suffit de quelques clics, essayer de renseigner, parce qu'en plus, on a toujours un compte-rendu. Quand on fait un rendez-vous avec un oncologue autre, on a des comptes-rendus. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'on peut mettre des papiers sur cette plateforme, un peu comme mon espace santé
Oui, tout à fait. Donc, sur la plateforme, en fait, on est hébergeur de données de santé Donc c'est une certification du ministère de la Santé qui permet justement d'avoir des transferts de données de santé. Et donc en fait, en tant que patient, on peut mettre ces documents PDF sur la plateforme. Et donc voilà, c'est des serveurs sécurisés qui sont en France, détenus par des Français. Donc c'est vraiment très important aussi pour nous, la sécurité des données, bien sûr. On a fait tout un accompagnement juridique pour la RGPD, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de travailler bien sûr là-dessus parce que c'est central, comme tout acteur dans la santé numérique, hein, comme Doctolib, etc. Enfin, on a un vrai enjeu de sécurité des données. Donc c'est aussi pour ça que l'équipe fondatrice, il y a à la fois, moi j'ai la partie un peu plus médicale, mais il y a aussi des ingénieurs pour cette partie aussi de cybersécurité. Et donc je pense que c'est très important cette transparence et cette confiance dans la plateforme.
Du coup, Clinéo est ouvert à la France, mais est-ce que c'est ouvert à d'autres pays? Comment ça se passe?
Alors, pour l'instant, effectivement, c'est ouvert uniquement en France, mais en fait, il faut savoir que les essais cliniques sont souvent internationaux, donc ils sont ouverts dans plusieurs pays dans le monde, et donc notre but, c'est d'étendre la plateforme, notamment en Europe. Et ce qui est important aussi, je pense, pour les auditeurs, c'est de savoir qu'un essai clinique, s'il n'est pas ouvert en France, mais qu'il est ouvert dans un autre pays, il y a une prise en charge au sein de l'Union européenne pour justement pouvoir participer dans un autre pays à un essai clinique, si c'est pertinent et que c'est une option thérapeutique pour le patient. Et ça va risque de se développer de plus en plus à l'avenir. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Ça peut être aussi des patients. On a déjà été contactés, nous, par des patients belges, des patients suisses, pour venir en France. Mais c'est vrai que c'est aussi un message, c'est de se dire que le but, c'est encore une fois d'élargir potentiellement les recherches d'essais cliniques à d'autres pays, et donc ce sera très prochainement aussi possible sur la plateforme. Et je pense que les pathologies comme le cancer sont des pathologies qui deviennent des pathologies rares, parce qu'on est capable de caractériser de mieux en mieux les sous-types de cancer, on va de plus en plus personnaliser les traitements, et donc à l'instar de ce qui se passe dans les maladies rares, où il y a justement des collaborations internationales pour justement avoir des essais qui sont un peu centralisés, mais qui permettent d'avoir des de différents pays. Je pense que en cancérologie, on aura ça aussi à l'avenir pour certains sous-types de cancers assez rares, pour permettre vraiment encore une fois d'avoir des essais cliniques qui vont plus rapidement donner des réponses et qui vont permettre d'avoir des options nouvelles pour ces patients qui malheureusement souvent sont un peu isolés quand c'est un cancer très rare.
Donc du coup, ça sera pris en charge entièrement par la sécurité sociale européenne?
Exactement, il y a un formulaire, ça s'appelle le formulaire S2, avec une prise en charge. Donc, bien sûr, il faut respecter certains critères, il faut que ce soit validé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se développer. Et puis après, notamment pour la langue, il y a des traductions, etc. Donc c'est en tout cas vraiment un mécanisme qui va probablement se développer par la suite. Et ça donne aussi de l'espoir, je pense, quand on n'a pas trouvé en France un essai, on peut trouver un essai ailleurs. Je pense que c'est aussi un enjeu de, encore une fois, d'élargir les options pour les patients.
C'est incroyable. Merci pour cette belle nouvelle, parce que je ne le savais pas et je pense que ça va donner de l'espoir aussi aux personnes qui nous écoutent et qui, des fois, qui peuvent être désespérées de ne pas trouver un essai clinique dans leur pays ou selon leur type de cancer. Du coup, quelle est la suite? Donc là, on a parlé de l'arrivée des nouveaux cancers qui vont pouvoir être suivis sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là?
Je pense que l'objectif, c'est vraiment que la plateforme soit utilisée, qu'il y ait vraiment tous les oncologues de France puissent l'utiliser et que ça devienne un outil un peu indispensable pour eux, pour notamment parler en consultation, en réunion de concertation pluridisciplinaire, que ça soit vraiment l'outil qui leur permet d'avoir enfin une recherche facile des essais cliniques. Et puis pour les patients, je pense que l'objectif, c'est vraiment que le maximum de patients ou de proches de patients puissent créer des comptes, faire des recherches, être informés en temps réel s'il y a des nouveaux essais qui ouvrent pour eux. Et je pense qu'encore une fois, notre objectif, il est très simple, c'est d'avoir des patients qui, grâce à Clinéo, ont trouvé une option thérapeutique. Et les témoignages qu'on collecte sont très positifs, mais on continue ce combat-là, et c'est une vraie mission, je pense, qui va apporter beaucoup de sens aussi à l'innovation et aux essais cliniques en général.
En fait, en tant qu'oncologue, vous souhaitez aussi que les patients prennent leur cancer en main, soit maîtres de leur cancer aussi.
Tout à fait. Je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. C'est les patients de plus en plus acteurs de leur maladie, de plus en plus experts. Il y a notamment les patients partenaires qui sont pour moi un très bon exemple de la façon dont un patient peut devenir vraiment, même pour lui ou pour ses pairs, un aide très, très, très clairement. Je pense que l'avenir, c'est des patients informés qui ont des informations fiables, parce qu'il y a aussi l'enjeu de la désinformation, il y a aussi l'enjeu des réseaux sociaux, etc., où il faut vraiment avoir des contenus de qualité. Mais en tout cas, avec un patient qui peut être dans la décision partagée avec son oncologue. Et les exemples dont on parlait tout à l'heure montrent que un patient peut discuter avec son oncologue de différentes options thérapeutiques. Et je pense que ça vraiment, ça va changer les choses pour beaucoup de patients parce qu'ils vont être capables d'avoir tous les éléments pour discuter un petit peu des options et de leurs préférences aussi individuelles. Certains patients ne souhaiteront pas participer à un essai clinique, et c'est totalement leur choix. D'autres, au contraire, voudront. En tout cas, voilà, il y aura, quoi qu'il arrive, la possibilité d'eux. Et ça, je pense que c'est vraiment le mantra qu'on doit avoir, c'est de pas passer à côté d'une possibilité, de ne pas avoir de perte de chance.
En fait, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Donc déjà, le savoir qu'ils ont cette possibilité-là, c'est important. Et le pouvoir y accéder, c'est encore mieux.
Totalement. C'est exactement ça.
Bah, merci beaucoup, Arnaud, pour cette information, parce que je pense que l'essai clinique, moi, j'ai vu l'évolution ces dernières années. On me pose plein de questions chaque fois. Pourquoi j'ai suivi? Pourquoi je suis autant suivi? Donc, voilà, écoutez ce podcast. J'espère que vous aura permis de pouvoir en apprendre plus sur les essais cliniques, télécharger Clinéo. Donc, c'est une application ou c'est un site?
Pour l'instant, c'est un site.
Un site.
Voilà, donc c'est clinéo.fr et vous pouvez vous créer un compte voilà, en tant que médecin, en tant que patient.
Et est-ce que du coup, il y aura une application qui va arriver?
Oui.
Ouais, ce sera beaucoup plus pratique aussi.
Exactement, donc ça, voilà, d'ici 2024, il y aura aussi une application.
Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.